des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M qui produit l'émission Des livres plein les oreilles. Et tiens, pendant que j'y suis, je remercie tout de suite CKVL qui relaie cette émission-là depuis maintenant quelques années. Et puis, ben, vous savez que vous pouvez aussi l'écouter à la télévision via Canal M présenté par votre câbleau distributeur ou encore sur le web. Et même, on a notre chaîne YouTube. Alors, c'est vous dire à quel point vous pouvez écouter cette émission-là et d'ailleurs toutes les émissions de Canal M quand bon vous semblera. C'est la dernière de la saison régulière de Des livres plein les oreilles. Ben oui, et comme c'est la semaine du 24 juin que vous allez entendre ceci, eh bien, ceci explique cela. Je vais vous présenter mes coups de cœur en audio, écrits et enregistrés, ou cela uniquement au Québec. Et on commencera avec un hommage à Caroline Dawson. On va aussi se souvenir de Nelly Arcan et puis sinon, eh bien, on va écouter Sophie Fauché, Jean-François Caron, Sylvie Laliberté, Alain Farah, Parmani Soleimanou. En tout cas, plein de livres qui me semblent essentiels à écouter en livre audio puisque, comme vous le savez, l'émission se consacre au livre audio. D'abord, cette voix.
Quand j'écris là où je me tape, pour moi, ce qui est important, c'est de parler de ma mère parce que je voulais en faire un personnage principal de la littérature québécoise. J'y tenais à ça. Je me disais, je prends le métro et des femmes comme ma mère, il y en a des dizaines. Et donc, si j'écris sur le cancer, ça va être moins de raconter mon cancer que d'essayer de trouver quels sont les points d'ombre, quels sont les choses dont on ne parle pas. Ouais. Et je pense que le rapport au corps des femmes malades, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer. Mettre en mots le cancer ou les étapes du cancer avec des mots plus lumineux peut-être que ce que je vis au départ. Donc, par exemple, quand je me repose parce que je suis extrêmement fatiguée par la chimiothérapie, ouais, je dis à mes enfants, maman, recharge ses batteries. Mm. Et donc, de changer le regard juste pour mettre un peu de lumière, pour pas les apeurer, ben, ça me permet moi également de changer mon propre regard. Et là, avec l'opération qui s'en vient, je leur dis, maman s'en va là pour guérir. Donc, je finis par y croire aussi.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qui est le plus fort, le plus précieux pour toi, là? De quelle manière tu veux rebondir à travers cette épreuve-là?
Ben, de rester en vie, ce serait la première chose. La deuxième chose, avant d'être une autrice, avant d'être prof, moi, je suis une lectrice.
Ben, oui.
Puis ça, le cancer m'a fait perdre un peu de la lecture parce qu'on est épuisé ou même des fois physiquement, je ne peux pas tenir un livre. Et ça m'a bouleversée, ça. Ouais, c'est une des choses les plus difficiles. Donc, j'ai des amis, notamment l'autrice Jennifer Bélanger, qui est une amie très proche, qui me lit des textes et me les envoie elle-même. T'sais, elle m'a lu des livres complets comme ça. Et donc, de garder la lecture dans ma vie, ce serait l'autre chose. Plus importante même que l'écriture, je dirais. Pour moi, c'est la lecture.
Alors, plein de choses à dire sur cet extrait. D'abord, vous avez peut-être aussi reconnu la voix de Claudia Larochelle parce que c'est un extrait de la série Claudia à la page que j'ai retenu pour vous. Et puis, c'était à l'occasion d'une entrevue avec Caroline Dawson que vous avez peut-être aussi reconnu, autrice de Là où je me terre, quand elle, j'aime pas dire quand elle luttait encore contre le cancer parce que je suis pas sûre que ce soit une lutte et je suis pas sûre que ça a été son cancer. Mais en tout cas, peu importe, toujours est-il qu'aujourd'hui, elle qui avait évidemment peur de disparaître, elle est partie. Juste un petit mot pour vous dire que le lendemain de sa disparition, et le jour même d'ailleurs aussi de sa disparition, j'apprenais moi la disparition par suicide d'une femme que je ne connaissais pas. Mais dont je suis proche de personnes de sa famille. Il s'agit d'Angela Laurier, de la famille Laurier, qui a fait beaucoup de cirque, qui était contorsionniste, qui a fait ses débuts au Cirque du Soleil il y a très longtemps. Et donc, le même jour ou le lendemain, je ne sais plus, du décès de Caroline Dawson, elle s'est enlevée la vie. Et ce soir-là, il y a eu une espèce d'aurore boréale incroyable que même à Montréal, on a pu voir un ciel complètement sont aux rangées. Puis je me suis dit, ah, voilà, on est en train d'accueillir ces personnes-là comme il se doit. Alors, Caroline Dawson, dont le premier livre était Là où je me terre, Caroline Dawson qui adorait, quand elle était malade, qu'on lui raconte des histoires, elle a eu l'occasion de pouvoir entendre la version lue par Cathy Alexandra Retamal Villegas, dont on va entendre un extrait. Là où je me terre, c'est l'histoire de cette famille chilienne, c'est la sienne, hein, qui a quitté Valparaiso, aussitôt après d'ailleurs un tremblement de terre, direction Montréal, et c'est tout le choc culturel de cette vie-là que Caroline Dawson va vivre, elle et sa famille, en particulier sa maman, pour qui elle avait un amour infini. Alors voilà, extrait de Là où je me terre de Caroline Dawson.
La nôtre tenait, je sais pas trop comment, sur une des dizaines de collines de cette grande ville du Chili. Elle semblait précaire, brinque-ballante, mais elle résistait à chacun des tremblements de terre qui la secouaient périodiquement, comme le faisaient d'ailleurs toutes les autres maisons merdiques du quartier pauvre où on habitait. Elle bougeait en synchro avec la terre elle-même, puis moi avec elle. Je tourbillonnais au deuxième et dernier étage, le seul qui laissait entrer un peu de lumière dans cette ancienne maison sombre et délabrée. Le vent marin cognait aux fenêtres puis s'invitait à l'intérieur, même si tout était fermé. De leur chambre, mes parents m'ont appelé dans l'énorme paquebot qui leur servait de lit. Probablement que c'était seulement juste un queen, mais dans mes yeux d'enfant, c'était une île géante. J'étais si bien entre la chaleur de leur corps encore engourdi de la nuit. Je tournicotais de l'un à l'autre en quête d'attention, jusqu'à ce qu'ils deviennent graves et prononcent les mots absolus qui font advenir un avant et un après, un passé et un futur. Ils ont statué, puis je me suis figée. Le temps immobile, l'avenir suspendu. Je sais pas trop quels ont été ces mots, mais ils se sont évaporés avec la presque totalité de mes souvenirs de mon pays natal. J'ai pourtant vécu toute ma petite enfance au Chili. J'ai été à l'école, appris à lire et à écrire des mots comme « mi mamá ». J'ai aimé ma famille puis mes amis. Comme tous les Chiliens, j'ai joué au bilboquet, au trompo, au cerf-volant fabriqué avec du vieux papier journal. J'ai eu une vie heureuse et insouciante. Et ce, malgré les disparitions, les détentions, la torture et les camps de concentration dont je ne savais rien que le murmure, les chuchotements à demi-mots. J'ai passé 7 ans sous la dictature d'un pays instable, fendu en deux. Et je me souviens d'à peu près rien sauf de cet instant frontière. De cet instant et tout ce qui suivait. Mes parents m'ont annoncé que dans quelques jours, on allait quitter le pays pour nous réfugier au Canada. À jamais. À ce moment-là, la peur m'a prise là où elle me prend encore parfois. Au ventre. J'ai rien dit. J'ai pas posé de questions. J'étais transie. La conscience claire de la gravité du moment en même temps que de l'absence totale de contrôle. J'ai regardé mes petites mains pelées, puis je me suis demandé si les enfants du Canada aussi avaient des saletés sous les ongles, ou bien si c'était tout immaculé là-bas. C'est sur leur lit, dans cette maison de pierre que je croyais éternelle comme un roc, que le plancher m'a semblé trembler jusqu'à disparaître sous mes pieds. Mes parents avaient été catégoriques.
Mon bébé, nous quittons les pays pour ne plus y revenir.
Plus jamais?
Non, jamais.
Pas même pour les anniversaires? Pas même aux vacances scolaires? Pas même à Noël?
Non, pas même pour les naissances, ni pour les enterrements.
Et les gens qu'on aime?
On va continuer à les aimer. Mais de loin.
Ouh, touchant tout ça, extrait de Là où je me terre de Caroline Dawson, lu par Cathy Alexandra Retamal Villegas. Il y en a une autre qui nous a laissé des livres absolument formidables, elle qu'on connaissait comme une putain, et ça a été aussi le nom choc, le nom phare de ce premier livre qu'elle nous avait écrit, Nelly Arcan, qui elle aussi a disparu en 2009, si je ne m'abuse, elle qui écrivait « Je pourrais vous décrire la beauté du monde si je savais la voir, mais je suis trop occupée à mourir ». Quelle plume, quelle plume. Putain, sortie donc en 2001, elle avait envoyé le manuscrit à plusieurs éditeurs, dont au Seuil, et très rapidement, ils ont répondu en disant « on publie ». Une lectrice de Putain a rédigé ce petit mot dans Babelio, « C'est de la littérature avec un grand L, un pathos étouffant et flamboyant que nous offre sa plume extraordinaire, à travers des phrases fleuves où elle joue avec les mots et les figures. » Je vous propose un extrait de Putain de Nelly Arcan, édité par Alexandre Stanquet. J'ai oublié de vous dire que Là où je me terre, c'est disponible sur le catalogue de Radio-Canada Audio. Donc ça, c'est distribué par Alexandre Stanquet. Vous retrouvez ça notamment sur Nara, lu par Françoise Blaise, extrait de Putain.
Enfin, je peux penser à tous ces hommes que je ne verrai jamais dans ce métier, car ils ne fréquentent pas les putains, pas eux. Ils préfèrent les livres, jouir des mots et des concepts, de l'espace stellaire, de la volonté de puissance, de l'éternel retour. Ils ne pensent pas à moi, car je suis trop lourde de ma chair, trop encombrante. Et quand je parle, c'est parfois très gênant, je dis toujours une suite de propos incohérents et malvenus. La réalité de ce corps qu'on désire, fait de tout ce qu'il faut et qui pourtant ne coïncide pas, n'étant jamais le même d'une fois à l'autre, d'un jour à l'autre, un corps qui me rappelle trop celui de ma larve de mer et que je tyrannise de ma fureur en le repoussant de toutes mes forces, en le fuyant comme si j'allais finir par lui échapper. Je pense souvent à mes parents qui liront un jour ces pages. Qui sait ? Et que pourraient-ils y voir sinon la révélation de ma putasserie, ma vie de me vendre ici et là pour leur prouver que je ne viens pas d'eux, que je reste étrangère à tout ce qui les regarde, que je fais ce que je veux, et surtout ce qu'ils ne voudraient pas que je fasse, me livrer à des hommes, n'importe lesquels, du moment qu'ils ont de quoi payer. Et d'ailleurs, que puis-je leur signifier sinon ma nausée, mon opposition radicale au couple vieillissant mal et s'ennuyant, l'un baisant les autres et l'autre mourant de ne pas être baisé, l'un et l'autre s'empoisonnant d'être ensemble sans pouvoir faire quoi que ce soit d'agréable, sans rien faire en dehors de se décevoir, comme s'ils attendaient encore quelque chose l'un de l'autre. Et ce n'est pas vrai, parce qu'ils sont déçus sans avoir rien attendu. C'est encore pire dans ce cas-là, car ils finissent par s'en vouloir d'être tellement eux-mêmes, de plus en plus les mêmes avec les années, à force de ne plus rien vouloir d'autre que de ne pas répondre, ou de ne pas attendre. Et puis de toute façon, ils n'auront pas la force de me lire jusqu'ici. Ils ne sauront pas reconnaître ces phrases sans histoire qui pourtant leur ressemblent. Et pourquoi donc aurais-je besoin de leur reconnaissance? Après tout, si ce livre témoigne de tout ce qui me sépare d'eux... Non, je n'ai surtout pas envie qu'ils occupent ce territoire, qu'ils piétinent ce qu'ils ne sont pas parvenus à corrompre tout à fait. Cette part de moi qui leur échappe... car il n'avait pas prévu qu'il puisse exister plus d'une façon de vivre le mal de vivre.
Et à l'émission des livres plein les oreilles, on va poursuivre avec cette fois-ci un livre pour la jeunesse, mais un livre pas comme les autres pour la jeunesse. Vous savez l'attachement que Sophie Fauché porte à Frida Kahlo. Eh bien là, elle a rédigé et lu « Frida, c'est moi ». C'est un livre destiné à un jeune public et cette fois-ci, elle prête sa voix à Frida, l'enfant, qui se raconte à travers ses joies et ses peines. Ce sont des textes profonds, c'est empreint d'une naïveté absolument désarmante et surtout d'une grande tendresse. Voici un extrait de Frida, c'est moi, écrit et lu par Sophie Fauché.
C'est vrai que je boite un peu, mais c'est quand même moi qui roule le plus vite à vélo, qui grimpe aux arbres mieux que tous les garçons et qui suis la championne au ballon. Je suis Frida l'invincible. Le plus grand peintre du Mexique, Diego Rivera, est venu à l'école. Il est grand, mais il est gros aussi. J'ai voulu lui jouer un tour. J'ai mis du savon sur le plancher pour qu'il glisse. Je voulais voir un éléphant patiner. Mais Diego est si lourd qu'il n'est même pas tombé. Il s'est mis au travail. Je l'ai regardé peindre pendant des heures. J'étais éblouie. Je suis Frida à Diego. C'est difficile pour moi de parler de l'accident. Ce jour-là, j'étais dans un autobus quand soudain, crash, boum, un tramway nous est rentré dedans. Tout le monde criait, sauf moi. On m'a emmenée à l'hôpital. J'étais comme une piñata à la fin du jeu, brisée en 1000 morceaux. Je suis Frida Piñata. J'ai mal et je m'ennuie. Cela fait 3 mois que je ne peux plus bouger. Pour me faire plaisir, on m'a construit un lit de princesse. Maman a installé un miroir au-dessus de moi pour que je sois moins seule. Drôle d'idée. C'est toujours moi que je vois. Moi, couchée, qui voudrais tant m'envoler. Je suis Frida Papillon. Papa m'a donné ces tubes de couleurs que j'aime tant. J'ai tracé une ligne, j'ai fait un croquis, puis un dessin. Une fleur, un fruit, ma sœur et mon visage avec un sourire. Je suis Frida qui peint. Je suis Frida Kahlo. Et toi, dis-moi, qui es-tu?
C'est tellement charmant. La voix de Sophie Fauché et la plume de Sophie Fauché. Nous lisons un extrait de Frida, c'est moi. Voici maintenant 2 livres que j'ai particulièrement adorés. 2 livres audio québécois, écrits ici, enregistrés ici. C'est pour moi, c'est 2 coups de cœur. Je ne peux plus me passer de ces livres-là. D'abord, « Beau diable » de Jean-François Caron. Lu par l'auteur au studio Bulldog, on est avec un homme retiré dans l'arrière-pays de Montmagny qui entreprend de piéger sa solitude dans les contes qu'il s'invente pour rapailler les morceaux disloqués de sa vie. Ratoureux, comme tout bon conteur, il espère ainsi déjouer les épreuves qui l'ont esquinté, c'est le moins qu'on puisse dire, et s'approcher de Mado. Une tenancière de bar dont la peau tavelée et le grand cœur pourraient dissoudre peut-être les dernières peurs qui rôdent autour de lui. Beau diable, chimère à 7 têtes, y veillera d'une terrifiante manière. Et ce qui est exceptionnel, au-delà de l'écriture de Jean-François, écoutez bien, c'est la narration qu'il fait de son livre. Ce n'est pas son métier. Il est auteur, il est poète, il a travaillé comme un fou chaque mot de son bouquin pour vous le rendre comme ça.
Ça commence par une voix, la mienne, dans le noir. C'est tout ce que ça prend. Puis la lumière se fait doucement pour qu'on puisse tout voir venir et aller, tout entendre se placer. Bruit de vaisselle et de couverts, mangeaille et jasage étouffé, l'éclairage vient d'être tamisé. À soir, le resto chez Mado prend ses airs de cabaret. L'habituelle salle à dîner pleine à craquer a été réarrangée avant votre arrivée. Un last call sur la bière vient d'être annoncé. Derrière son bar, Vicky a été claire. Si vous voulez boire, c'est maintenant ou à l'entracte. Elle aussi veut profiter de sa soirée. L'excitation est palpable. La sentez-vous comme moi? Ça fait toujours trop longtemps que Madeleine a organisé un de ses soirs pas ordinaires. Je m'appelle François, devant vous autres, je prends mes aises puis mes grands airs. Attention, c'est sur le point de se faire. Pendant que vous m'écoutez, tout devient un peu plus clair. C'est un jour qui se lève sur nous autres. Pareil à ce matin-là, quand je dors encore, la peau collée au tissu rugueux du vieux Chesterfield orange et terre humide. C'est là, justement, que la magie opère, parce que si vous vous concentrez, vous voyez le divan. Vous me voyez, moi, étendu dessus. Et en même temps que moi, vous entendez, vous autres aussi, les coups qui résonnent pour me réveiller. Comme ces trois coups distincts, incertains, lents sur le comptoir du bord. Toc, toc et toc. Et une voix, belle voix grondée, rugueuse et sobre, celle d'un homme, sortie de loin dans mes souvenirs, sortie de bien trop loin, trop profondément enfouie. Et alors, vous me voyez dans votre tête, debout dans cette vieille cabane de fond de bois qui vous apparaît comme une évidence avec pour seul vêtement mon vieux caleçon blanc sur la caboche des épis épars et ma barbe écrasée d'un côté qui donne un air déformé à ma bouche en pâte à papier. Vous me voyez, moi, dans votre tête, mais vous voyez aussi la cabane, la bien nommée Trappe à Edmond, mais j'y reviendrai, sise au pied de la vieille tour à feu du Mont-Saint-Louis, retapé par mes propres mains à moi, moi le François que vous êtes en train d'apprendre à faire exister au-delà de cette salle à dîner du resto chez Mado. De l'autre bord de la porte que je suis sur le point d'ouvrir, il y a Jean, beau Jean, grand Jean, mon bon chum, bon sang, pas vu depuis, oh, je dirais, 2 lustres et demi. C'est la première fois que je le vois dans son attirail, attifé en camionneur, bottes à cap d'acier, veste carottée, dossard fluo, casquette Peterbilt, un vrai beau Jean bien propre puis bien rasé, prêt pour l'ouvrage. En me voyant pratiquement tout nu pour le recevoir, il part à rire. Je lui réponds qu'il n'y a pas de décorum pour recevoir un vieux chum, surtout quand on vit au milieu du bois. Le voir réapparaître me fait un sourire de 200 jours et 200 dents. Je lui ouvre les bras encore plus grands et ce sera l'accolade la plus étrange qui soit pour le temps qu'elle durera. Et alors viennent entre nous les affaires qu'on se dit dans ce temps-là. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais de bon? Ah, et puis, tu sais, moi, mais qu'est-ce qui t'amène? Une bien longue histoire. Puis toi, en tout cas, content de te voir. Les mêmes mots depuis 1000 ans, une formule de conteur. De celle qu'on utilise avant de commencer son histoire, comme quand je vous dis que ça commence par une voix, la mienne, dans le noir.
Et quelle voix! Une voix que je peux écouter pendant des heures et des heures, celle de Jean-François Caron lisant un extrait de son propre livre « Beau diable ». Ça a été édité par le studio Bulldog à Longueuil, ici tout près de Montréal. Donc vous retrouvez ça aussi très facilement sur le catalogue nara.ca ou .com. Oh, si vous faites Nara, vous allez trouver ça. On va finir cette demi-heure avec sûrement mon plus gros coup de cœur. J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus, de Sylvie Laliberté. Sylvie Laliberté qui parle à son frère, retrouvé mort dans son appartement. On ne sait pas exactement de quoi il est mort. Ce qu'elle sait, elle, c'est que cette disparition fait remonter à la surface un passé qu'elle a toujours cru enfoui. Secret, mais non, tout d'un coup, la boîte de Pandore s'ouvre, le couvercle s'envole, et là, ce qu'elle retrouve au fond, non pas peut-être de cette poubelle, mais de cette boîte, eh bien, il y a ce père qui n'allait pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a toutes ces phrases, parce que c'est pas un livre triste, je vous garantis que c'est pas un livre triste, c'est un livre touchant, par exemple, émouvant, mais c'est surtout un livre tendre, avec des expressions qui n'appartiennent qu'à elle, comme « Tous les quatre, on aura été les joyeux naufragés sur l'île désertée de la maladie mentale » ou encore « Les enfants sont des constructions, il faut les bâtir ». Extrait de « J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus » de Sylvie Laliberté.
Je ne voulais rien. Je ne voulais pas que les gens mangent pendant que tu étais mort dans une petite boîte pas chère. Mon chéri a eu l'idée de servir du scotch. Ce serait pour les gens qui se sentiraient pas bien. Il a trinqué tout l'après-midi, mon chéri. Mon mari Sou, c'était la preuve que tu étais mort. Il a fallu choisir la photo pour le journal, celle qui te résume, celle qui fait le tour de toi, celle qui comprend toute ta vie. Cette photo, on l'a prise lors d'une sortie avec notre vieux père. On l'avait emmené manger le smoke meat dans un beau quartier. Alors il y a des arbres derrière toi. Et bien sûr, j'ai coupé la tête de notre père. Il a fallu rédiger ton avis de décès pour le journal. J'ai hésité entre décédé subtilement, décédé patiemment et décédé totalement. J'ai regardé un peu les avis des autres morts pour voir comment ils font, les autres morts. Je pensais que t'étais la seule personne morte cette semaine-là. Mais non, il y en avait des pages de morts. Je suis allée choisir un bouquet. Je voulais que ce soit simple, blanc. Je voulais que ce soit invisible. Je voulais des fleurs magiques qu'on ne voit pas. Je ne voulais pas être en train d'acheter des fleurs pour ta mort. Et puis, je voudrais qu'on arrête de mêler les fleurs à la mort. Les fleurs sont de joie et d'espoir. T'es mort dans ton sommeil, ton activité préférée, et t'étais le meilleur dormeur parce que tu honorais l'activité de dormir. J'avais déjà pris plusieurs photos de toi qui dormais. Je pensais que ce serait à propos de l'art de dormir. Mais j'ai pas osé faire de l'art avec ta vie. Souvent, je n'ose pas. Je t'ai tellement vu dormir. C'est tellement magnifique, un enfant qui dort avec la petite rosée sur le front, les cheveux humides et la bouche ouverte. On dormait dans la même chambre et toi, tu me réveillais quand tu grimpais et sortais de ton lit prison à barreaux. Tu faisais de l'insomnie, enfant. C'est à force d'insomnie qu'on apprend la valeur du sommeil. On t'a trouvé mort dans ton lit, en position « tout va bien et je dors pour toujours ». T'étais quand même un peu bleu parce qu'on t'a retrouvé 16 heures plus tard. Je me demande qu'est-ce qu'on fait avec un lit qui a servi pour mourir dedans. J'imagine qu'on n'a plus le droit de l'utiliser.
Bouleversante Sylvie Laliberté, c'est elle qu'on entendait lire aussi un extrait de son livre « J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus ». C'est la dernière émission de la saison des Livres plein les oreilles, émission intégralement consacrée aux livres audio du Québec. Et c'est Clotilde Saye qui vous présente ça. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Alors, en seconde partie, toujours un spécial Québec, Gérald Cousineau a écouté pour nous la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot. C'est le livre dont tout le monde parle en ce moment ici au Québec. Il faut dire qu'il a obtenu le prix des libraires 2024. Il a aussi gagné le combat des livres à Radio-Canada. La version commerciale n'existe pas encore au moment où j'enregistre cette émission. Mais à mon avis, d'ici quelques semaines, il le sera et vous pourrez trouver ça sur le catalogue, entre autres, Nara.com. Et puis pour finir cette émission spéciale de la saison et semaine du 24 juin, spéciale Québec, et bien des livres d'ici encore, parmi ceux qui m'ont peut-être le plus marqué. Ils sont à lire et à entendre, « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah, « Mélasse de fantaisie » de Francis Ouellet et « Une femme extraordinaire » de Catherine Etier. Mais d'abord, Emmanuel Pierrot, lu par Gérald Cousineau. Alors, ce bouquin, Gérald, d'abord, bonjour, tout va bien?
Bonjour, Clotilde, bon. Tout va très bien.
Bon, alors, ce bouquin dont tout le monde parle, qui obtient des prix partout, vous en avez pensé quoi?
Je dirais d'abord que cette jeune écrivaine a à peine 30 ans. Elle est née en 1994. Et je souligne tout de suite que, parce que si vous avez lu le livre, vous allez me comprendre tout de suite, très vite. Entre 2012 et 2020, elle a séjourné, comme par hasard, au Yukon, en Colombie-Britannique et aux États-Unis. Bon, j'ai dit ça en passant. Et elle y est restée quand même, elle a voyagé quand même pendant 8 ans.
Bon.
Donc, ce roman, la version qui n'intéresse personne, pourquoi ce titre d'abord? Eh bien, elle croyait que ce livre n'allait intéresser personne. C'est ce qu'elle croyait au départ. Mais je dirais plutôt que c'est la version qui ne laisse personne indifférent.
Oui.
Donc, c'est comme premier livre, un prix des libraires, c'est quand même quelque chose.
Oui,
hein?
Oui, oui.
Premier roman, prix des libraires 2024. Alors, nous sommes en 2012. Il y a une certaine Sacha, c'est elle qui raconte l'histoire. Sacha, 18 ans, et son meilleur ami, Tom. Je dis bien son meilleur ami, pas son petit ami, son meilleur ami.
D'accord.
Tom, vont quitter Montréal sur le pouce et vont se retrouver dans la petite ville minière de Dawson City au Yukon. C'est pas tout à fait la porte à côté, là.
Non.
Et pourquoi? Eh bien, dans l'espoir de s'intégrer à une communauté de punk, de nomades, de marginaux, d'anarchistes. Alors, ils vont réussir à le faire pendant plusieurs années. Ils vont y vivre plusieurs années dans des conditions que nous, on trouverait peut-être un peu difficiles quotidiennes. Leur premier abri, par exemple, c'est une maison sans électricité, sans eau courante. Je vous rappelle qu'il y a un hiver au Yukon. Hein?
Oui.
Un bon hiver. Donc, ils vont vivre dans des conditions que nous, on trouverait très difficiles. Ils vont faire de petits boulots ici et là. Mais ce qui m'a frappé d'abord, c'est la vie d'une liberté totale qu'ils vivent là-bas avec leurs amis. Alors, alcool à volonté, drogue, sexe, on s'échange les copains, pas de problème, et plus souvent qu'autrement. Donc, ce ton-là est extrêmement vivant. D'ailleurs, parlant de ton, j'aimerais qu'on écoute tout de suite l'extrait parce que ça va vous donner une très bonne idée
oui.
du ton employé par la narratrice.
D'accord. Alors, je précise que ce n'est pas un extrait de livre audio, c'est un extrait d'une entrevue que je suis allée rechercher sur Radio-Canada dans l'émission de Marie-Louise Arsenault. Alors, on écoute cette... C'est très court, hein, ça fait 37 secondes.
Et c'est là qu'elles nous sont apparues. Celles dont tout le monde parle, celles qui, chaque hiver, déçoivent par leur absence des centaines de touristes venus d'Asie et d'Europe, celles que les Dawsonites ridiculisent entre eux mais ne cessent jamais de chérir en secret. C'est là qu'elles me sont apparues, les hosties d'aurore boréale du Calis. Des langues rouges vins qui léchaient le cosmos, des océans roses pastels et leurs miroitements verts et mauves phosphorescents. Je n'ai pas pleuré. J'aurais pu. Si la beauté du monde avait suffi à compenser la connerie humaine, j'aurais pleuré de grâce, mais la beauté ne sert à rien.
On ne fait pas dans la dentelle.
Non, pas du tout. C'est curieux, parce qu'elle dit que la beauté ne sert à rien, et pourtant, elle va admettre que là où elle vit, à Dawson City, le paysage est très beau. Mais bon, cependant, c'est très curieux, parce que le premier chapitre s'appelle, comme par hasard, « Paradis ». Parce qu'au début, les premières années, on a l'impression qu'elle vit au paradis.
Oui.
Elle fait ce qu'elle veut, elle couche avec qui elle veut. Donc, c'est la liberté, avec un L majuscule. Mais, les années passant, il va s'opérer une rupture entre Tom et elle, parce qu'à un moment donné, elle va tomber amoureuse. Bon, là, c'est sérieux, là.
Oui, oui.
Elle va tomber amoureuse d'un habitant du coin, et Tom ne le prend pas.
Ah.
Et pourtant, Tom n'est pas son petit ami.
Non,
Tom ne le prend pas. Et là, il va la traiter de tous les noms, putain, etc. Alors, c'est comme la deuxième partie du roman. Il y a une rupture et Tom va comme mettre les gens de cette petite ville de son côté. C'est comme si les Dawsonites, pour les citoyens de là-bas, vont faire le procès de Sacha. Elle va se retrouver de plus en plus seule. Il y a un fossé qui se creuse entre les résidents de la petite ville et elle. Donc, évidemment, période difficile. Et elle va arrive la pandémie, ce qui n'arrange rien.
Oui.
La pandémie en 2020. Là, elle va se retrouver dans la maison d'un homme qui est amoureux d'elle et qui la harcèle. Elle n'en peut plus. Elle s'en va. Elle va retrouver Tom. Bref, une suite d'aventures rocambolesques. Et à la toute fin, elle va se retrouver dans une maison pour femmes de Dawson City. Et là, je ne dis pas ce qui va arriver après. Mais c'est pour dire qu'elle a envie des aventures, cette pauvre Sacha. Et quand je parlais de narration tout à l'heure, c'est elle qui raconte l'histoire, c'est vrai. Et de temps en temps, elle s'adresse à un tu. Et on va apprendre plus tard qu'elle s'est inventée une amie lectrice, donc à qui elle raconte son histoire. Ah. Et elle n'arrête pas de semer des... À l'université, on parlerait d'effets de réel. Elle va dire que, bon, un an après avoir vécu les aventures que je raconte ici, elle va dire quelque part, le 24 juin 2018, j'ai eu 24 ans. Or, c'est vrai, parce que l'autrice est née en 1994.
Ah, okay.
Donc, en 2012, elle avait effectivement 18 ans. En 2018, elle avait effectivement 24 ans. Donc, elle n'arrête pas de semer des effets de réel, mais dans une entrevue, elle va dire par ailleurs qu'elle a eu beaucoup de plaisir et de joie à séjourner au Yukon. Alors, que faut-il en penser? Est-ce que tout ça est inventé? C'est possible. Mais quel ton, quelle vivacité. Et c'est un roman à l'emporte-pièce. Il n'y a aucun temps mort là-dedans.
Ah oui.
Et, mais on passe de détails intimes à des scènes violentes. Et là, elle va découvrir, cette pauvre Sacha, que même si elle se croyait au paradis, eh bien non, au paradis, il y a de la misogynie, il y a de la violence. Il y a, là, on dit souvent, là où il y a de l'hommerie. Hein. Eh bien, c'est le cas également pour Dawson City. Donc, elle va comme descendre de son piédestal et se rendre compte que non, l'homme est l'homme partout. Et évidemment, ça, c'est un coup dur pour elle. Elle va s'en remettre quand même, mais encore là, le roman finit sur une espèce de pirouette. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Là. Et là, j'ai oublié de dire qu'ils ont adopté un chien qui est très important dans le roman, un chien-loup. Une chienne-loup qui s'appelle Luna. Elle va le perdre. On va le lui enlever. Elle va le retrouver. On va le lui enlever de nouveau. Ça n'arrête pas.
Ah,
c'est
oui,
épuisé à la fin du roman. C'est épuisé pour eux.
C'est pour ça que, est-ce que c'est dans la presse que j'ai lu que, que c'est le genre de roman qu'on lit d'un trait qui nous serre aux tripes quand on tourne inéluctablement sa dernière page?
Effectivement. Les Américains diraient un page turner, parce qu'on on est inquiet quant au sort de cette pauvre Sacha.
Ben oui.
Mais comment elle va s'en sortir si toute la ville est contre elle? Effectivement, pour un premier roman, bravo. Bravo.
Ouais.
Au début, elle avait écrit de la poésie, mais on lui a dit, ben, ce serait bien que tu racontes ça dans un roman. Elle l'a fait, mais encore une fois. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est autobiographique?
Bon, en quelque part, on s'en fout. Finalement.
Oui, effectivement.
Hein? Non, mais dans le sens que...
L'important, c'est qu'elle nous emporte dans
C'est ça, exactement. Je lisais aussi dans un autre journal, avant même sa parution, la rumeur voulait que la version qui n'intéresse personne soit un roman puissant. De quelle rumeur parle-t-on? Je ne sais pas. De fait, on sort époustouflé de ce premier ouvrage d'Emmanuel Pierrot. C'est votre cas? Vous sortez époustouflé de
oui,
ça?
Oui, et j'ajouterais que tout à l'heure, on a entendu un extrait. Ben, le sacre. Il est omniprésent, mais ça ne dérange pas parce que c'est très québécois. La langue est très québécoise.
Oui.
La langue est parfois très crue. Il y a des détails assez crus, assez explicites.
Oui.
Mais encore une fois, ça fait partie du Courbillon. Je pense que ça colle très bien au personnage et à Sacha parce que c'est curieux. Au tout début du roman, finalement, elle raconte la fin de l'histoire. Et c'est après le prologue qu'elle va se remettre, qu'elle va revenir en 2012.
Okay.
Mais dès le prologue, on sait que ça a mal tourné.
Alors, ça s'appelle « La version qui n'intéresse personne ». Gérald Cousineau l'a lu pour vous, pour nous, pour moi, en version accessible. Donc, et il l'a beaucoup aimé. Si vous êtes non ou malvoyant ou si vous avez un autre problème et que malheureusement, la littérature sur papier ou sur écran ne vous est pas accessible, vous savez que vous pouvez passer soit par le SQLA, vous pouvez aussi passer par, vous le faites, hein, par la médiathèque en France.
Oui.
Ou encore, il y a les livres gratuits chez Audio, chez Radio-Canada. Le site est un peu compliqué, mais peut-être que vous allez y réussir. Et il y a beaucoup de Québécois là aussi. Et ainsi que sur Nara, d'ailleurs. Sur Nara, hein, mais bon, ce sont des versions commerciales payantes. Mais si vous voulez aussi entendre d'excellents livres audio québécois, eh bien, c'est par là que ça se passe. Gérald, on va se retrouver cet été, une fois ou deux, pour l'émission spéciale des livres plein les oreilles en vacances. Mais là, c'était la dernière de la saison. Et mon petit doigt me dit que non seulement on va se retrouver cet été, mais à l'automne.
Non, je verse déjà une larme. Là.
Oh, d'accord. Okay. Oui. Allez, séchez-moi ça, séchez-moi ça. Allez, je vous souhaite une... À bientôt, Gérald. Merci.
Au revoir.
On continue, et tiens d'ailleurs, on va rester dans le Quartanier, qui est la maison d'édition qui a fait paraître au Québec la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot, qui avait fait paraître aussi il y a quelques années un livre qui avait fait beaucoup parler de lui, « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah. C'est lu en audio par Manny Soleymanlou. C'est un livre vraiment exceptionnel parce qu'il se déroule sur 24 heures pour Alain qui va épouser Virginie à l'Oratoire Saint-Joseph. Ça pourrait être le plus beau jour de sa vie, d'ailleurs de leur vie à tous les deux. Mais Alain va plus mal que jamais à l'approche de la célébration. Il fait de l'insomnie, il est angoissé, il est malade. Et puis il y a son cousin Édouard aussi qui fait un paquet de bêtises autour de lui pour ne pas dire autre chose et ça le panique. Et puis il y a ces retrouvailles avec quelqu'un, une espèce de fantôme qui se fait chair, une personne qu'il n'aurait jamais voulu revoir. Il y a cette femme qu'il a tant aimée, d'ailleurs c'est d'elle dont on parle dans l'extrait qu'on va entendre. À un moment donné, il y a un retour en arrière lorsque A pour Alain fait la connaissance de C pour cette personne. Je me souviens plus si c'est Christine ou Clémence, en tout cas peu importe, qui est l'autre dont il a été follement amoureux, et ce n'est pas elle qu'il épouse. Alors, en 24 heures, tout ça est condensé avec des parents québéco-libanais avec une mère incroyable. Tout ça se passe en grande partie à l'Oratoire Saint-Joseph. On découvre les cryptes. En tout cas, c'est complètement fou comme bouquin. C'est merveilleusement bien écrit. Et alors, que dire de la lecture de Manny Soleymanlou, j'ai toujours du mal à le dire, pardon, à ce comédien que j'adore. Extrait donc de « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah, la rencontre en vélo entre Alain et C, A et C.
A et C ont une longue conversation lors d'une randonnée cycliste au canal de la Chine organisée par les professeurs d'histoire. C découvre ce jour-là un garçon différent, d'une sensibilité qu'elle ne connaît pas. Quand elle le taquine au sujet de sa manière hésitante d'enfourcher son vélo, A ne se fâche pas. Il lui dit plutôt qu'il vient à peine d'apprendre à en faire, à 13 ans et demi. À compter de ce jour, elle le salue quand elle le croise dans les corridors, lui sourit, l'invite à rejoindre ses amis à leur table de la cafétéria. Le dernier jour avant les vacances, elle l'attend après l'école pour marcher avec lui vers l'arrêt d'autobus qui mène au Petit Liban. Deuxième année de secondaire. Les parents de A ont divorcé avec fracas. Le père a quitté la maison et A reste avec sa mère, qui de tout son être refuse la réalité. Le fracas de la séparation cède la place à la fureur de la mère. Fureur contre le père. La mère sombre dans la folie que produit parfois l'amour. L'amitié qui lie A et C se transforme. Ils se livrent davantage l'un à l'autre. Ils vieillissent vite. La colère que A ressent envers la vie assombrit tout. Il en veut secrètement assez de respirer le bonheur et le bien-être, et il se sent coupable. C demeure la seule lumière dans sa vie. Elle le fascine par sa lucidité, par la vivacité de son esprit. Elle confie à A qu'elle n'apprécie pas le regard que posent maintenant sur elle les garçons et les hommes. À l'école, dans l'autobus, au tennis. Elle a commencé à exister pour eux d'une manière inédite. Elle ignore si c'est un pouvoir ou un piège, ce qu'elle voit apparaître dans ses regards. Elle est grande de taille, gracile, blonde et mate de peau. A n'entend jamais les femmes parler ainsi dans les films. Il l'écoute, n'arrive pas tout à fait à comprendre ce qu'elle dit. Il préfère se perdre dans l'éclat de ses yeux bleus. Le cœur de A se serre. C et A sont désormais inséparables. Ils chuchotent pendant les cours, traînent ensemble à l'heure du dîner sur le terrain de football qui jouxte le collège Mont-Saint-Louis. À la fin des classes, le retour à la maison n'est qu'un intermède. Ils s'appellent tous les soirs et parlent des heures, sauf lorsque Scoop ou Chambre en ville jouent à la télévision. Ils reviennent sur les événements de la journée, rient ensemble des frasques de certains élèves, parlent de tout et de rien, trouvent plaisir dans la voix de l'autre, la présence de l'autre au bout du fil, même les silences.
Littérature québécoise toujours dans le cadre de cette ultime émission des livres pleins les oreilles pour la saison « Mélas de fantaisie » de Francis Ouellet, lu par René Richard Cyr. Ça, c'est édité par La Mèche sur papier. Ça a été enregistré au studio Bulldog. Alors, c'est aussi à se procurer au catalogue nara.com. Si vous faites nara, N-A-2-R-A.com, vous allez avoir tout le catalogue et il est beaucoup plus facile à ouvrir. Et vous pourrez vous procurer beaucoup plus facilement des bouquins que sur d'autres, en tout cas. Et puis, c'est de chez nous. Et puis, eh bien, ça diffuse et ça enregistre et ça produit des livres formidables comme Mélas de fantaisie de Francis Ouellet. Alors, Mélas de fantaisie, on est dans le Faubourg Amelas. On est exactement rue Poupart, centre-sud, en décembre 76. Oui, oui, je connais le Faubourg Amelas. Je suis là depuis 37 ans, si des fois. Et lorsque, donc, dans ce livre, Mélas de fantaisie, un nouveau-né échappe aux bras inexpérimentés de sa mère et déboule les marches du bloc appartement. Au moment de se fracasser le crâne, le temps s'arrête et se déplie tout à la fois. Francis entrevoit toute sa vie et entreprend de nous la raconter. C'est ça, l'idée de départ, c'est ça. Alors là, c'est écoutez, des personnages qui arrivent les uns derrière les autres, qui sont tous aussi plus fous et plus attachants les uns que les autres. Frigo, le sans-abri, bien connu du bois. L'auteur d'ailleurs arpente les recoins et les souterrains de ce faubourg Amelas, guidé par Frigo, et dans ce quartier qui est infecté, dit-on, par le gangrène de feu. Par la gangrène de feu, ça veut dire qu'il y a énormément d'incendies dans le faubourg Amelas aussi à l'époque. Et tour à tour, il nous amène, c'est une histoire, c'est une véritable fresque, c'est comme une fable, c'est drôle pour mourir et en même temps c'est très troublant. Tous ces personnages sont plus grands que nature, ils sont tous réels, hein. Ils ont tous existé, en tout cas aux yeux de Francis Ouellet. Alors il y a par exemple Tigris, qui est la blonde à Josette. Il y a Lil Mike, qui est le saxophoniste déchu. Il y a Raymond, la championne indisputée de berceau-ton, comme berceau-ton. Voilà, il y a cette faune exotique du quartier qui le fascine, qui nous fascine et qui peut également menacer. Laissé à lui-même, Francis va tenter d'embrasser et d'esquiver la vie comme il peut. Anyway, comme il dit, voici un extrait de ce livre de Francis Ouellet, Mélas de fantaisie, lu par René Richard Cyr.
Encore de la mélasse, toujours de la mélasse, mais en de la mélasse, on en a en masse.
Ma mère est là dans un costume de Père Noël en plastique. Une petite fille en robe bourgogne me fait un câlin. Je l'aime. Tatoune est en chemise, avec un nœud papillon. Il est beau. Trop d'images, trop de sons. Impossible de m'extirper du torrent. La télé, la radio tournent en permanence et la rue parle tout le temps, des engueulades en série. Ma mère qui pleure beaucoup, qui se fâche. Beaucoup de femmes chez nous, beaucoup de chicanes. L'odeur de la bière et des clopes, les bruits et les cris partout et toujours, dehors et dedans, le jour comme la nuit. Il y a une barrière dans le passage de notre appartement. Il fait très chaud. Je peux pas sortir de ma chambre autrement que pour aller jouer dans les toilettes. Ça me rafraîchit. Il faut que j'apprenne à passer par-dessus la clôture parce que je vais me sauver dans pas long, pour la première fois. Bientôt, je vais descendre dans la cour arrière de notre bloc pour tenter de me rendre seul au parc Olivier Robert. Toute ma famille habite le même quadrilatère, entre les rues Poupart, Maisonneuve, Dufresne et Ontario. Notre HLM est direct au centre. Ici, il y a mon grand-père et ses deux frères qui sont ses voisins. Ils se ressemblent et ne se parlent jamais. Là-bas, j'ai des grands-tantes qui habitent ensemble et dont je ne connaîtrai jamais le nom. Quatre générations de ma famille habiteront entre ces quatre coins du monde. Peu importe la direction que je prends, je vais tomber sur l'un d'eux, à toutes les fois. Ma belle grand-mère pleine de lumière, Raymonde. Je la vois qui se berce sur sa galerie en fumant ses rouleuses, rue Poupard. Je titube vers elle dans ma couche qui déborde. J'ai de la misère à la regarder tellement elle brille, elle est comme une statue. Mon sourire me fait mal aux joues, elle me prend par la main, elle sait où je veux aller. Il fait chaud, trop chaud, c'est flou comme un mirage. On passe l'après-midi à la barboteuse. L'image et les bruits se précisent, des rires et des cris d'enfants. Je rejoins le courant, le parc Olivier Robert. Les modules de jeu en rondins et en pneus qui ressemblent à une piste d'hébertisme. La grosse glissade en métal qui cuit au soleil. La grande poutre pour se tenir en équilibre ben trop haute. Deux garçons vont en tomber. Un va se casser le bras, l'autre le coccyx. Ma grand-mère m'emmène me rafraîchir. C'est mon baptême au centre du sud. Le bassin est plein à craquer de petits crottés. Dans le temps du faubourg, ben du monde n'avait même pas de bain.
Encore de la mélasse, toujours de la mélasse, mais en de la mélasse, on en a en masse. Encore de la mélasse, toujours de la mélasse, mais en de la mélasse, et un poquito masse.
Ah là 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 là, extrait de Mélasse de Fantaisie avec plume comme un point d'exclamation pour accompagner les mots de Francis Ouellette, lu par René Richard Cyr. Un autre livre audio, c'est un petit peu la cerise sur le sundae, mais je ne pouvais pas faire cette émission spéciale de littérature québécoise en audio sans évoquer Une femme extraordinaire de Catherine Etier, elle-même une autrice extraordinaire qui nous raconte la chute d'une jeune trentenaire à qui tout réussit, du moins en apparence, et qui petit à petit s'effiloche, qui sombre dans une dépression terrible. Elle s'appelle Corinne Gazaille, s'est angoissée, est aussi drôle à pleurer. Alors, toutes les larmes qu'elle pleure en secret, c'est comme si elle avait envie de nous les communiquer avec beaucoup d'humour. Quelques mots, peut-être, de Madame Etier qui sortent directement de ce livre. Ne pas décevoir, dormir mieux, ne pas mourir. Ne pas mourir, c'est de l'ouvrage. Il faut pour cela continuer parce que quand on meurt, ça fait de la peine aux autres. Voici un extrait de Une femme extraordinaire, c'est lu par Catherine Etier et c'est de Catherine Etier.
Les raconteurs, ils adorent. Ils seront certes ravis que je vous en fasse confidence. C'est qu'après une vie à protéger et servir, vient le temps d'écumer tous les secrets et descentes aux enfers d'autrui, de les faire rissoler dans une poêlonne et de les faire sauter d'un petit geste du poignet sec et sûr parce que le chemin Vegas-Grand Canyon en bus, c'est long. Alors pourquoi ne pas disséquer les amours volages d'une dénommée Denise dans le détail et les étaler sur une grande nappe à la vue de tous, je vous le demande. Jacques en était, pas des amours volages de Denise, mais du voyage des policiers retraités à Las Vegas. Il avait vécu sans vie. Jamais nous ne nous étions dit mot, mais je savais de source sûre qu'il avait déjà touché le pied de Céline Galipeau et qu'il détestait le veau. Quelle n'avait donc pas été ma surprise de déménager juste en face de chez lui quelques années plus tard. Je l'avais tout de suite reconnu, ce Jacques. Le petit homme silencieux du fond du bus, toujours bien mis, sa femme et lui. Des discrets. Lui n'a jamais bronché à ma vue, même si je le croisais et le saluais discrètement chaque jour quand je l'apercevais veiller la rue sur son perron, droit et fier, peigné par en arrière. Je crois que ça l'intimidait de ne pas reconnaître cette femme qui lui envoyait la main comme ça, gratuitement. Il me trouvait peut-être vulgaire, mais ce n'était pas grave, car Jacques, c'était un chic type à qui en vouloir de ne pas avoir reconnu la jeune femme qui avait partagé le même autocar que lui 10 ans plus tôt était chose impensable. La première fois que je l'avais aperçue de l'autre côté de ma rue m'avait transportée de joie, une présence rassurante, enfin. Et j'avais vite découvert que Jacques était un homme qui aimait s'occuper les mains. Chaque jour que le bon Dieu lui apportait, Jacques était dehors, chevelure impeccable, petite jaquette tout allée si brise il y avait. Je m'en étais aperçue non pas parce que j'épiais à la fenêtre en prenant des notes. Je ne prends jamais de notes. J'attends seulement mes colis en regardant la buée de mon respire apparaître et disparaître sur la vitre. À n'en pas douter, Jacques nourrissait un amour passionné pour sa femme, tout juste après celui qui l'enflammait pour son VUS. Tout un morceau de véhicule. En noir profond, il l'avait pris. Et je mets quiconque au défi de trouver bolide plus étincelant que le véhicule utilitaire sport de Jacques. Une impeccable monture. Jacques l'avait d'ailleurs récemment équipé d'un marchepied chromé. Quelque chose de luxueux. Ça lookait. Il n'y avait là aucune vanité, attention, c'était simplement plus facile de monter à bord et ça faisait propre. Je ne peux toutefois affirmer que Jacques ait jamais conduit son véhicule joyau où que ce soit. Cet homme n'allait résolument nulle part.
Ah, l'écriture de Catherine Nettier, c'est évidemment très très bien lu aussi, avec ce ton un petit peu badin, léger, alors qu'on sait qu'au fond d'elle, cette fille est complètement détruite. En fait, elle ne pense qu'à une chose, c'est se foutre en l'air. Alors voilà, c'est d'ailleurs ce paradoxe qui fait que ce livre est si attachant, Une femme extraordinaire, comme le sont d'ailleurs tous les auteurs québécois qu'on a pu entendre à cette émission, Sophie Fauché, Caroline Dawson, Nelly Arcan, Sylvie Laliberté, Francis Ouellette, Alain Farah, Emmanuel Pierrot. Il était important, je pense, en cette semaine de la Saint-Jean, de célébrer, de fêter les auteurs d'ici. Ils sont tout à fait formidable, ils n'ont rien à envier. C'est marrant l'image que j'ai, c'est le pain et le fromage que nous avons ici. Eh bien, nous avons des auteurs merveilleux, pourquoi aller acheter ceux de l'étranger? Alors, célébrons-les, fêtons-les, bonne Saint-Jean et je vous retrouve cet été quand même avec quelques émissions consacrées à des lectures estivales dans le cadre de Des livres pleins les oreilles en vacances. C'est Clotilde et Mathieu Tessier en régie. On vous souhaite bel été, salut.